votre Bible en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, et on va lire les versets 28 à 34. Romains chapitre 8, versets 28 à 34. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Je lis à partir du verset 28, il est dit, et c'est Paul qui parle, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. » Ce matin, j'aimerais parler du salut, tout simplement, et de l'assurance du salut que l'on peut avoir. C'est une doctrine hein, dans ce qu'on appelle la sotériologie, le salut, la doctrine du salut. Et c'est bien de temps en temps de s'arrêter, se poser la question, est-ce que j'ai vraiment, moi, la ferme conviction que je suis sauvé? Parce que si vous allez dans le monde, beaucoup de gens vont se poser la question, vous vous posez la question, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Et des gens vont dire, je ne sais pas trop. Et la Bible va nous donner quelques arguments pour cela, et chacun pourra faire le bilan. Quelqu'un écrivait, en parlant de Voltaire, hein, bon c'est une histoire, c'est pas vrai, mais c'est une histoire. Voltaire, un athée convaincu, avait été invité un jour par Frédéric le Grand. Lors de la réception en son honneur, l'écrivain français leva son verre et dit, d'un ton moqueur, « Je cède ma place dans le ciel pour un marque prussien. » C'est une monnaie à l'époque, hein. Il s'ensuivit un silence gêné de quelques minutes jusqu'à ce qu'un autre invité à la cour du roi répondit à Voltaire. « Monsieur, nous avons une loi qui exige de quiconque désireux de vendre quelque chose qu'il prouve que l'objet en question lui appartient réellement. Pouvez-vous prouver que vous avez une place dans le ciel ? C'est une chose de pouvoir la vendre, c'est une chose de pouvoir la prouver. Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, si vous vous dites chrétien, est-ce que vous pouvez prouver que vous avez une place au ciel ? Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens dans ce monde, mais ne sont pas sauvés, ou du moins n'ont pas l'assurance du salut. Et il ne faut pas confondre peut-être le sentiment que j'ai par rapport à certaines choses avec l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais parler un peu de cette assurance du salut ce matin. Et vous savez, toute conviction se base pas sur le monde, sur une philosophie, etc. En tout cas, dans la vie chrétienne, ça se base sur la Bible. J'ai une conviction parce que je peux trouver dans la Bible des versets, des passages qui appuient cette conviction que j'ai au fond de moi. Et on va voir un peu ce que nous dit la Bible. On va voir dans un premier temps quatre groupes de chrétiens. On pourrait en avoir plus, mais on va voir. On va voir dans un deuxième temps les fondements bibliques de l'assurance du salut. Et puis dans un troisième temps, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on peut perdre notre salut? Parce que beaucoup se posent cette question. Quand on regarde dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, on peut discerner quatre groupes environ de chrétiens. Je ne parle pas assez fort.
C'est pour la garde.
Ah, c'est pour la garde. Il me prie, il conteste ces choses. Ça ne marche jamais. Merci Rémi. Voilà. Ok. Donc, quatre groupes de chrétiens. C'est beau le modernisme, j'adore. C'est bon, tu m'entends? Quatre groupes de chrétiens dans le Nouveau Testament. D'abord, on pourrait parler des chrétiens de nom. Dans Matthieu 7, par exemple, il dit, à un moment, des gens vont dire à Jésus, Seigneur, Seigneur. Et Jésus va dire, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et beaucoup de gens peuvent peut-être dire, je connais le Seigneur, peut-être même le servir d'une manière ou d'une autre, par des œuvres, mais en fait, ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est ce qu'on appelle être un chrétien de nom. D'autres chrétiens de nom, par exemple, il y a des faux prophètes, qui viennent comme des loups dans les églises annoncer des fausses doctrines et sont là juste pour l'argent et bien souvent pour diviser l'église. C'est leur plaisir, c'est une tristesse, mais bon, c'est des faux prophètes. Il y a la tradition, en France surtout. Je pense que beaucoup de chrétiens sont de tradition. Je vais une fois de temps en temps à l'église, hein, et est-ce que le fait d'y aller de temps en temps à l'église me sauve ? La Bible ne dit pas ça, en tout cas. Et puis, il y a ceux qui croient, mais qui n'obéissent pas. Aller dans la rue, beaucoup de gens vont dire « Oui, je crois en Dieu ». Mais la Bible nous dit qu'il faut croire, certes, que Dieu existe, mais après, il faut lui obéir. Parce que les démons, Satan lui-même, croient que Dieu existe, mais il ne lui obéit pas. Il n'obéit pas à ce que Dieu lui demande de faire. Et si je dis que je crois en Dieu aujourd'hui, alors j'obéis aussi, tout simplement, et à sa parole, et à ses commandements. Mais si je crois simplement qu'il existe, je ne suis peut-être pas sauvé. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Ça, c'est les chrétiens de nom. Et je pense que dans la plupart du temps, ces gens ne sont pas sauvés du tout. En tout cas, pas nés de nouveau. J'espère sur le chemin, en tout cas. On trouve dans Corinthiens, chapitre 3, enfin dans tout l'épître de la première épître de Corinthiens, une église qui est là, en train de se disputer, qui dit « moi, je suis le meilleur, l'autre, il est ci ». Il y a de la concurrence, il y a des procès entre des vrais chrétiens. C'est quand même terrible de faire un procès à un frère. On appelle ça les chrétiens charnels. Ils ont un pas, on va dire, dans la foi, ils essaient d'avancer avec le Seigneur, mais en même temps, ben, la chair est là, et puis ils y cèdent. Ils sont nés de nouveau, je le pense, mais voilà, la chair les attire, les disputes sont là, la concurrence est là, les procès sont là, c'est plus fort qu'eux, et voilà, on appelle ça un chrétien charnel. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait de conflit entre nous. Et s'il y a un conflit, on apprend à se pardonner, à s'aimer les uns les autres. Et même si ça demande parfois du temps. Hein. Mais là, cette église, voilà, se disputait, et tout le monde était les meilleurs, et moi je suis de Paul, moi je suis de Barnabas, je crois. Enfin bref. Mais bon, c'est des chrétiens qui ne marchent pas selon l'Esprit, qui ne laissent pas le Saint-Esprit travailler dans leur vie, cette vie de sanctification, de transformation que Dieu veut opérer dans leur cœur. Et là, on va apprendre le pardon, on va apprendre l'amour, on va apprendre à servir. On est tous un peu de temps en temps dans cette case, hein, en tant que chrétien. On a tous nos passes, hein, et puis on revient, et le Seigneur nous fait avancer. Mais il ne faut pas rester dans cet état, et c'est ce que dit Paul justement à l'église de Corinthe, hein. Ne restez pas dans cet état. Si vous avez un conflit, réglez-le. Si vous avez des procès, arrêtez d'avoir des procès. Et pardonnez-vous, et personne n'est meilleur que l'autre. C'est Jésus le premier, c'est lui la pierre, hein, de l'angle, comme il dit. Puis on a des chrétiens apostats un peu plus compliqués, il faudrait lire Hébreux 6, Hébreux 10, ou d'autres passages. C'est des chrétiens qui sont nés de nouveau, et dans le contexte d'Hébreux 6, il y a eu des tribulations. Il y a eu des moments où il fallait choisir entre aller mourir chez les lions, enfin par les lions, ou s'en aller. Je ne sais pas comment nous on va réagir devant des lions. Je regarde mon chat, enfin un chat déjà, ça fait un peu peur des fois, mais alors un lion. Et il y a des chrétiens qui, devant la mort, ben, vont dire « non, moi j'en veux pas ». Et même, ils vont jusqu'à renier leur foi à ce moment-là. Il y a une période de l'Église, on parle de lapsie, hein, c'était des gens justement face à ce dilemme de « est-ce que je vais mourir pour le Seigneur ?» Et parmi eux, il y avait un homme qui avait renié sa foi devant l'empereur, je ne sais plus exactement. Et il a renié sa foi, mais il a commencé à évangéliser. Et plus de 5000 personnes se sont converties au travers de son ministère. Et une deuxième fois s'est présentée eh ben, la mort, la persécution, et cette fois il a accepté de mourir pour le Seigneur. Donc on n'est pas là pour juger ceux qui des fois renient leur foi, hein, bien que c'est un peu triste, mais bon, le Seigneur sait agir avec les uns et les autres. Mais c'est aujourd'hui que ça se prépare. Hein. La France ne sera jamais persécutée ? C'est rien, moi. Hein. Un jour on va nous demander de renier notre foi, ou alors peut-être on va devoir mourir. Non, on est bien en ce moment, hein. On est pépère, comme on dit. Mais un jour, peut-être que ça arrivera. Est-ce que je vais renier cette foi et ça serait triste? Ou est-ce que je vais être prêt à accepter ben, de mourir peut-être pour mon Seigneur? Il est mort pour moi. Hein. Mais comme nous dit 1 Corinthiens 3, je pense qu'ils seront sauvés comme au travers du feu, mais comme au travers du feu. Hein. Et certains disent qu'ils auront l'odeur du roussi, quelque part. Mais bon, voilà. Ça se prépare avant. Hein. On ne renie pas le Seigneur parce qu'on a envie de le renier. C'est parce que peut-être je ne suis pas assez appuyé en lui. Je ne le connais pas assez. Je n'ai pas assez appris de lui. Et puis, le quatrième groupe, c'est les chrétiens authentiques. Alors, être chrétien, pour moi et la Bible, c'est être né de nouveau. Non seulement être né de nouveau, mais en croissance avec le Seigneur. Celui-là a compris l'objectif du chrétien. Il ne se nourrit plus du lait, c'est-à-dire des simples choses basiques de la Bible. Hein. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Il veut aller beaucoup plus loin. Il veut apprendre à connaître la parole de Dieu et il a besoin de nourriture solide. Si vous aviez vos enfants qui étaient encore des bébés 10 ans après, vous seriez contentes, les mamans, là ? Toujours au biberon, 10 ans après, et pleureraient toutes les nuits en train de faire ses dents. Ça vous intéresse ? Ben, le pasteur, des fois, il regarde l'assemblée comme ça, hein ? Et il prend le biberon de temps en temps. Et là, c'est vrai. Mais de temps en temps, il aimerait leur donner un peu plus de nourriture. Plus de nourriture à prendre. Mardi est là, votre lecture personnelle est là, il y a des livres en plus maintenant. Donc vous avez tout pour grandir et commencer à vous nourrir de nourriture solide. Et c'est aussi le projet du Seigneur, surtout. Il veut qu'on apprenne à mieux le connaître. Et quand je le connais mieux, je peux mieux le suivre, je peux mieux l'aimer et peut-être je peux aller jusqu'au bout s'il faut. Naître de nouveau doit conduire vers la maturité spirituelle. Pour naître de nouveau, on l'a vu hier soir avec les jeunes, il faut se repentir de ses péchés, avoir une conviction de péché et vraiment dire pardon Seigneur, voilà c'est vrai, je me suis mal comporté, j'ai jamais voulu de toi dans ma vie et je me repens aujourd'hui fermement devant toi. Mais si je me repens, j'ai aussi envie de me convertir. Et convertir, c'est faire demi-tour, hein. C'est avancer dans la direction du Seigneur. Mais je ne peux pas me dire chrétien si je ne me suis pas repenti à un moment, si je ne me suis pas converti. Ce n'est pas juste un sentiment, la conversion. C'est vraiment un bilan de sa vie. J'ai péché contre Dieu, contre mes parents, contre, je sais pas, mes enfants, etc. Et j'en prends conscience pleinement. C'est difficile d'accepter qu'on est dans l'erreur. Vous aimez être dans l'erreur, vous ? J'aime pas quand on me dit que j'ai tort. Mais ça m'est arrivé une fois dans ma vie, et c'est le Seigneur qui a mis son doigt sur moi, et j'ai accepté qu'il avait raison, et que j'avais tort, et j'ai demandé pardon pour mes péchés. Et c'est comme cela qu'on est de nouveau. Et évidemment, ensuite j'ai envie de grandir, et on chante souvent « Te ressembler Jésus », on le chante très vite, hein, mais quand on essaie de réfléchir à ce que ça veut dire « ressembler à Jésus », il y a du boulot, hein, pour chacun d'entre nous, pour moi le premier, hein. Mais évidemment, on a envie de tendre dans cette direction. Voilà 4 groupes qui nous permettent peut-être de nous identifier ce matin et de nous poser la question, dans quel groupe je suis ? Est-ce que je suis vraiment sauvé ? Est-ce que je suis vraiment sûr de mon salut ? Et c'est pas rien d'en être certain. Alors, on peut se tourner vers la Bible et se poser les questions, quels sont les fondements de ce salut qui sont dans la Bible ? Il y a plusieurs assurances, c'est-à-dire que je peux être assuré de mon salut parce que la Bible dit certaines choses. Alors, à condition, évidemment, que je les croie et que je les ai acceptées. D'abord, on peut peut-être aller dans le passé, l'assurance qui est liée au passé. Dieu a imaginé le salut bien avant même que l'homme chute. Formidable quand on y réfléchit. Dieu sait tout. Il savait qu'un jour Adam et Ève allaient chuter. Eh bien, il a tout organisé. Pas pour autant qu'il est coupable de leur chute. C'est pas pour autant qu'il voulait leur chute. Mais heureusement qu'il avait tout prévu. Alors, ils ont peut-être chuté, ces deux-là, mais Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Et Dieu n'est jamais pris au dépourvu, dans aucune situation. Et ça, ça nous rassure quelque part. Hein. La Bible nous dit que Dieu avait prédestiné son Fils, justement, à offrir sa vie, à verser ce sang, pour que nous puissions, nous, être un jour purifiés de nos péchés. Il a prédestiné aussi l'homme au salut. Hein. Je crois que vous avez eu une étude là-dessus il y a quelque temps. Il a prédestiné l'homme au salut. Celui qui est prédestiné, c'est celui qui est appelé, comme dit Romains. Dieu appelle à un moment l'homme, il le justifie, c'est-à-dire qu'il le déclare juste. Il était coupable devant Dieu, mais à cause de Jésus-Christ, il peut être déclaré juste. Et puis, il est aussi glorifié. C'est-à-dire que si je me convertis, si je suis né de nouveau, j'ai aussi l'assurance un jour d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Et j'aime beaucoup ce passage, parce qu'il dit « appelé égale déjà glorifié » ou « justifié égale glorifié ». Si je me pose la question si je suis sauvé aujourd'hui alors que je suis déclaré juste, je n'aime pas à me poser cette question. Je suis sauvé, et pour l'éternité. Vous comprenez l'idée ? Il y a une assurance liée à notre position aussi devant Dieu. Souvent, quand on parle de la conversion, hein, on parle de nos sentiments, de notre expérience avec Dieu. Ça, c'est notre vie, forcément, c'est notre côté. Le Seigneur m'a parlé au travers de la Bible, j'ai accepté que je suis pécheur, j'ai accepté de me convertir. Voilà ma conversion. Mais en même temps, il s'est passé un tas de choses, je vais résumer, mais il s'est passé un tas de choses juridiques, en fait, entre vous et Dieu. Par exemple, dans Romains 8, 1, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » À partir du moment où je suis né de nouveau, plus personne peut me condamner, ni l'homme, ni le diable. Je suis né de nouveau, je ne suis plus condamné, et je suis né de nouveau. Il n'y a pas de jugement pour moi. Le jugement, c'est Jésus qui l'a pris sur la croix. C'est lui qui a payé pour moi. Et évidemment, un chrétien qui se repent, qui se convertit, accepte que ce prix a été payé à la croix par Jésus-Christ. Il saisit cette grâce et la présente devant Dieu, qui Dieu dit « Oui, voilà, tu es sauvé grâce à Jésus-Christ ». Donc si parfois il m'arrive de pécher, de m'échapper un peu de Dieu et de me poser des fois des questions, parce qu'on se remet des fois en question, hein, en tant que chrétien même, ben, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est né de nouveau. Il n'y a pas à remettre en question ça. Ça apporte la paix, tout simplement, dans notre cœur. Il n'y a pas de colère de Dieu sur moi. Par contre, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, cette colère de Dieu est sur eux, et ils n'échapperont pas au bout s'ils ne se sont pas mis en règle avec le Seigneur. Deuxième chose, c'est la position de perfection. Celui qui est né de nouveau est parfait. Saviez-vous que vous étiez parfait, pour ceux qui êtes nés de nouveau ? Il y en a qui disent oui. On va voir ça. Hébreux 10, 14 dit « Par une seule offrande, et là évidemment c'est la mort de Jésus-Christ, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection juridique. Une seule offrande. Autrefois, on a parlé tout à l'heure du temple, autrefois on apportait des bœufs, des brebis, etc. pour offrir des sacrifices, mais ça couvrait le péché. C'était pas parfait. Mais Jésus est venu ensuite et a offert sa vie. Non seulement il a offert sa vie, mais il était le souverain sacrificateur qui a offert sa vie. Il est rentré dans ce lieu saint et il a offert sa propre vie à Dieu. Et en mourant sur la croix, justement, il est devenu cette offrande parfaite qui peut mener celui qui croit, évidemment, à cette perfection. Il ne s'agit pas d'une perfection en tant qu'homme. Personne n'est parfait ce matin ici, ni moi ni vous. On est d'accord, il nous arrive encore d'avoir nos chutes, nos difficultés, etc. Mais Dieu nous regarde comme parfaits au travers de Jésus-Christ. Et cette perfection, ce n'est pas juste pour un laps de temps, c'est éternellement, à condition évidemment que j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai accepté qu'il est mon sacrifice, qu'il a pris ma place là où moi je devais mourir. Le mot grec est intéressant, perfection, en fait il signifie rendre complet et parfait et même avoir achevé. Quand je suis né de nouveau, quand je ne suis plus condamné, quand je suis dans cette position de perfection, en fait, tout est déjà achevé pour moi. C'est formidable, non ? On n'a plus rien à faire. Alors, il s'agit évidemment d'avancer avec le Seigneur, de marcher avec lui, de lui obéir. Mais positionnellement, juridiquement, je suis sauvé, c'est achevé. On n'a rien à ajouter. C'est formidable, non ? Vous avez beaucoup de choses gratuites comme ça ? Rarement. Puis la justification, je l'expliquais, je l'explique souvent comme ça. Imaginez qu'à un moment, vous retrouviez devant Dieu dans un tribunal, et Dieu vous dit, vous êtes pécheur et vous êtes condamné à passer l'éternité loin de lui. Et Dieu a raison, parce qu'on a tous péché à un moment. Oh, on n'a pas tué, on n'a pas volé, mais on a menti, on a eu des mauvaises pensées. Un tas de choses sont là dans notre vie, et à partir du seul péché que j'ai pu commettre, je suis séparé de Dieu pour l'éternité. Non seulement ça, mais la Bible nous dit aussi qu'à cause d'Adam et Ève, nous sommes déjà pécheurs quand nous naissons, et donc séparés de Dieu pour l'éternité. Et donc Dieu me regarde comme ça et me dit « Tu es pécheur, mais tu es condamné pour l'enfer, en fait. » Mais Jésus entre dans ce tribunal et propose simplement « Ben, j'ai donné ma vie pour lui et est-ce que tu acceptes tout simplement que je prenne ta place ?» Alors le chrétien, celui qui naît de nouveau, va dire « Ben, oui, j'accepte ce cadeau sur la base de la repentance, sur la base de la conversion. » Il dit « J'accepte ce cadeau » et Dieu dit « Maintenant tu es justifié, tu es déclaré juste, tu peux sortir du tribunal. » Et moi, je me plais à imaginer qu'une fois que je suis sorti de ce tribunal, sauvé, lavé, ben j'ai mon petit brevet qui est à la droite de Dieu, quelque part là, et personne ne peut aller le chercher, l'arracher ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Et personne d'autre pourra me dire « tu perds ton salut » ou quoi que ce soit. Mon brevet, il est accroché à côté. Alors, c'est une image, on est bien d'accord. Mais c'est lui qui me justifie, et non pas l'homme ou les œuvres ou quoi que ce soit. Dieu nous gracie. Dieu nous gracie. Je parlais aux jeunes hier soir, je leur ai dit « Mais vous avez déjà été condamné à mort ?» Non, on ne sait pas ce que c'est. Mais peut-être que des gens qui ont été condamnés à mort savent ce que c'est que, avant de mourir, quelqu'un vient et dit « Non, je te propose de garder ta vie. » C'est énorme. Enfin, je ne pense pas que la personne sorte là comme ça, ne va pas aller voir le président qui a fait la grâce, qui n'aille pas lui dire merci pour ça. Mais on ne se souvient pas assez que Nous sommes des gens qui étaient condamnés à mort, mais graciés par le Seigneur, à condition évidemment qu'on saisisse cette grâce. Nous avons une position de justifiés, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de ce que nous sommes, mais tout simplement parce que nous avons saisi Jésus-Christ dans notre vie. Et je suis déclaré juste et je suis sauvé pour pouvoir partager l'éternité avec lui. J'ai aussi cette position de né de nouveau. La Bible nous dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dès que je suis né de nouveau, dès que je suis devenu un vrai chrétien, tout change dans ma vie. Alors, progressivement, ça dépend où j'en étais, mais le passé, c'est le passé. Et maintenant, devant moi, j'ai un chemin nouveau avec le Seigneur. Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Bien souvent, on s'arrête dans notre vie, on regarde nos péchés, on demande peut-être pardon, et puis... Puis on y repense, et on se dit, mais est-ce que franchement Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu peut pardonner un meurtrier? Oui, il l'a fait sur la croix. Le brigand, juste avant de mourir, a demandé pardon pour ses péchés. Et Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors évidemment, allez pas tuer juste pour dire, après je vais demander pardon. Je pense que le monsieur qui était en train de mourir sur la croix devait vraiment regretter ce qu'il avait fait. Il devait souffrir même, et... Que Dieu ne conduise pas dans un état de souffrance pour que nous reconnaissions notre péché. Beaucoup de gens se convertissent sur un lit de maladie ou dans des situations difficiles, alors que les cadeaux, il est là aujourd'hui. C'est plus facile de le saisir aujourd'hui que d'attendre d'arriver dans des situations extrêmes. Mais quand Dieu a dit que je suis déclaré juste, quand je suis justifié, quand il m'a amené à la perfection, quand il me dit que je ne suis plus condamné, tous ces péchés sont jetés au fond de la mer. Et personne ne peut aller les rechercher. Il n'y a que moi qui y vais de temps en temps. Pas pour moi, mais pour les péchés des autres. Bien souvent, on va aller les chercher dans la mer. Ah, tu te souviens que tu as péché là? Non. Le Seigneur veut que nous-mêmes, nous jetions tous ces péchés au fond de la mer et de plus de s'en souvenir. Facile à dire, je sais, mais c'est vrai. Spurgeon, un grand prédicateur, écrivait « Christ nous a sauvés. La bénédiction de salut ne se limite pas à notre lit de mort et au séjour céleste, mais la vie éternelle se reçoit et se vit dès à présent. » Le croyant n'espère pas un jour être sauvé. Il est déjà, en fait, sauvé. C'est bien la différence. Chacun de nous, en ce moment présent, soit sauvé, soit perdu. Soit on est sauvé, soit on est perdu. Dieu a sauvé ses élus, non partiellement, mais de façon parfaite, c'est-à-dire selon son dessein. Il les a destinés à la vie éternelle et son dessein est irrévocable. Il ne faut pas se poser la question à savoir si je suis sauvé. Si je suis réellement né de nouveau, je suis sauvé. C'est un fait accompli. Et ça, ça me donne beaucoup de joie. Ouais, un peu. Vous êtes heureux d'être sauvé?
Oui.
Ouais, il faudrait le dire de temps en temps un peu plus fort. L'exprimer, pas à moi, mais au Seigneur, tout simplement. Le chrétien qui est sauvé est dans la joie parce qu'il sait que, non seulement il va passer son éternité avec Dieu, mais ça commence déjà aujourd'hui. C'est ça qui est formidable. On a un pied dans le ciel déjà. Une espèce de grand écart un peu bizarre, mais on a un pied dans le ciel. Et on profite déjà de tout ça, même si on ne le voit pas. On profite au moins de la présence du Seigneur chaque jour. Et puis, une assurance liée à notre avenir. On parlait tout à l'heure de glorification. Le Seigneur nous dit qu'on est gardé pour le salut par la puissance de Dieu. Dans 1 Pierre 1,5, il est dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » On va voir le verbe « garder » dans le grec. Ça veut dire être gardé, être enfermé. Et ça va même plus loin, ça veut dire être protégé par une garde militaire. C'est-à-dire que celui qui est né de nouveau, il sait qu'il va être glorifié, mais en fait, autour de lui, on pourrait... Bon, c'est une image. Mais il y aurait comme une garde militaire qui empêche quiconque de venir retirer ce privilège. C'est génial, non? Toute une armée, quelque part, qui vous protège. Bon. Évidemment, c'est Jésus-Christ. Mais c'est ça l'image. Je suis gardé pour mon salut. Donc, quoi que je fasse, moi, même s'il m'arrive de chuter gravement, ben, le Seigneur me garde, me protège. Et si je suis sauvé, je serai sauvé, quoi qu'il arrive dans ma vie. Le salut, donc, ne dépend pas de moi, à condition, évidemment, que je me repente et que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Mais ensuite, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend uniquement de Dieu. C'est lui qui va m'amener... jusqu'au bout. Et il le dit, il le promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, les vies sont différentes. On est chrétien, on est plus ou moins chrétien, mais je suis sûr d'être sauvé. Alors, le Seigneur nous demande de marcher avec lui, de le servir au maximum. Il y aura un tribunal de Christ, comme il est dit, où on sera évalué sur notre façon de vivre notre vie chrétienne. Mais on ne remettra pas en question le salut s'il nous a été accordé. Rien ne peut me séparer de Dieu, ni les anges, ni les puissances. Et je me souviens à l'Institut biblique, on se posait la question, mais est-ce que moi-même je ne peux pas me séparer de Dieu, même si je suis chrétien? Ben non, j'y arriverai pas, parce que comme j'ai dit, c'est juridique. Quoi que je fasse, même si je pêche au maximum, si j'étais né de nouveau, si je me suicide par exemple, hein, on en parle le mardi soir, eh bien je suis né de nouveau, juridiquement parlant, je suis sauvé. Alors, n'allez pas vous suicider, n'allez pas pêcher exprès, hein, parce que après on se retrouve quand même devant le Seigneur et il va nous évaluer. On est bien d'accord. Mais moi, je ne peux pas me séparer de salut si je l'ai déjà acquis. Le Seigneur me demande plutôt de marcher et de mettre en marche ce salut. Nous avons aussi l'assurance de notre rédemption, hein, donc de cette glorification par le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il nous arrive de temps en temps d'attrister le Saint-Esprit par nos péchés, par nos conduites, mais ce n'est pas ça le plus important. Mais au moment où je suis né de nouveau, je suis scellé du Saint-Esprit. C'est fixé, ça ne bouge plus. D'accord ? Et donc, à partir du moment que j'ai ce sceau, en fait, nous dit Éphésiens 1 aussi, c'est un gage de ma rédemption. Ça me promet, en fait, que je serai un jour avec un corps nouveau et dans la présence du Seigneur. Donc, si je laisse Saint-Esprit au fond de moi, j'ai déjà aussi l'assurance de mon salut, de tout ce que la Bible nous promet par rapport à ce salut. Ça ne dépend pas de moi, encore une fois. Je n'ai rien fait là-dedans. C'est un cadeau de la part de Dieu. Il démontre là que nous avons un pied dans le ciel, que nous avons l'assurance du salut. Et puis, une dernière assurance liée à notre avenir, c'est notre résurrection, notre position céleste. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6, il est dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Quand je suis né de nouveau, j'ai l'assurance de mon salut, mais j'ai aussi l'assurance de la résurrection. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est là, je dirais, toute la base de ma foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, je ne serais pas avec vous ce matin. Mais il est réellement ressuscité. Et c'est la base aussi de toute notre foi, en tout cas de la foi chrétienne. Et parce que Jésus a été ressuscité, un jour, vous aussi, vous allez être ressuscité. Des fois, je regarde mon corps avec ses petites douleurs, avec ses difficultés, hein, mal au dos tout le temps. Un jour, tout ça sera fini. Vous réjouissez ? Moi, souvent, on n'y pense même pas. Hein. Et on pense plutôt à nos bobos, à nos difficultés. Mais de temps en temps, c'est bien de se projeter un petit peu en avant et de se dire, bon, allez, encore que quelques années, et puis je serai ressuscité avec un corps parfait. Hein, c'est extraordinaire. Mais tout ça, c'est à cause de Jésus-Christ qui nous a rendus à la vie et nous a ressuscités. Et c'est la position du chrétien. Et c'est intéressant dans le texte, il dit, il nous a ressuscités tous ensemble. C'est un argument pour l'assurance du salut. Si un est sauvé, tout le monde est sauvé aussi. Réellement. Si quelqu'un est vraiment né de nouveau, tous les nouveaux-nés sont sauvés. On est assis dans les lieux célestes, on l'a déjà dit. Notre position est acquise par la conversion. Je sais qu'un jour, mes yeux verront le Seigneur face à face. Vous avez déjà pris le temps d'y réfléchir un petit peu le jour où vous serez en face de Jésus. Vous me laissez la première place, j'ai des questions. Hein. Mais bon, je crois qu'on sera moins fiers qu'on sera devant lui. Hein. Ça va faire bizarre de se retrouver devant lui. Mais un jour, mes yeux le verront et je pourrai enfin partager mon éternité avec lui. Et la Bible nous dit qu'on recevra un héritage incorruptible, comme dit 1 Pierre 1, 3 à 4, qui ne peut pas être souillé. Rien ne peut nous enlever cet héritage et ces promesses que le Seigneur nous a faites. Donc, ce qu'il faut apprendre là, c'est qu'à partir du moment que je suis né de nouveau, que je suis justifié, plus rien ne dépend de moi. D'ailleurs, rien n'a jamais dépendu de moi. Hein. Mais rien ne dépend de moi, de ma conduite, de ma façon d'être. Si je suis né de nouveau, tout cela est acquis. Juridiquement, mais bientôt aussi visuellement, physiquement. Alors la grande question, parce que j'en ai rencontré des gens qui sont en train de se poser la question, ou qui le croient, est-ce qu'on peut perdre le salut? Je ne sais pas si vous êtes un jour posé la question. J'ai rencontré une personne, quand j'étais sur Reims, qui me disait, j'ai perdu mon salut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en fait, chaque jour, elle perdait son salut, et puis elle le récupérait le soir après avoir demandé pardon. Et puis après, évidemment, elle nous arrive encore à nous mettre en colère, elle a reperdu son salut, redemande le salut, etc., etc. Finalement, cette personne n'avait aucune joie. Aucune joie. Elle était tout le temps dans le conflit, dans le pardon, dans la question « est-ce que je suis vraiment sauvé ?» Mais ça, c'est parce que Dieu nous dit. Ça, c'est le diable qui s'amuse avec les personnes comme cela. Et c'est pour ça que tous les arguments que j'ai donnés tout à l'heure, ce n'est pas des arguments de sentiment. C'est la Bible qui me le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit que tout ça, c'est vrai et démontre que vous avez votre salut. Mais on peut se poser la question, est-ce que je perds le salut ? Alors, moi, avec cette personne, j'ai discuté et on a essayé de découvrir qu'il y a des conséquences théologiques. Si je dis que je perds le salut, il y a des effets négatifs. Par exemple, si je perds mon salut, eh bien, je perds ma nouvelle naissance. Je ne suis plus né de nouveau. On est bien d'accord. Et donc, si je ne suis plus né de nouveau, je ne fais plus partie du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église. Je suis hors de l'Église à ce moment-là. En même temps, le Saint-Esprit s'en va de moi, puisqu'il faut être né de nouveau pour être scellé du Saint-Esprit. Donc, il s'en va. Donc, père de la régénération, de cette transformation que le Seigneur a fait lors de ma conversion. Perte de l'adoption. C'est de la doctrine, peut-être, mais je ne suis plus adopté par le Seigneur. Il n'y a que des effets négatifs, là. Ça, c'est quelqu'un qui perdrait le salut. Puis j'ai une nouvelle position à ce moment-là. Je me retrouve de nouveau sous la colère de Dieu. Parce que si je ne suis pas sauvé, je suis sous la colère de Dieu. Et évidemment, si ben, je ne change rien, enfin, ça c'est faux évidemment, mais si je ne change rien, ben, je pars pour l'enfer. Je ne suis plus assis dans les lieux célestes, puisque je ne suis plus sauvé. Vous imaginez chaque jour ? Je gagne tout ça, je perds tout ça. Je gagne tout ça, je perds tout ça. La gestion là-haut, ça doit être terrible. Hein, bon, c'est faux, évidemment, mais c'est ça les conséquences théologiques. Et puis surtout, et c'est ça qui me pose le plus grand problème, ça dévalue le salut. Ça dévalue la grâce, ça bafoue cette grâce, ça bafoue le sacrifice de Jésus-Christ. Quelqu'un écrivait, un grand auteur, Arthur Pink, je ne sais pas si vous connaissez, « Car la perdition d'un seul élu entraînerait l'échec du Père qui verrait la réalisation de son projet enrayée, la frustration du Fils qui ne verrait jamais la perfection du fruit du travail de son âme et ne pourrait s'en rassasier, le déshonneur de l'Esprit qui n'aurait pas réussi à préserver ceux qui ont été confiés à ses soins. » Puissions-nous être préservés de telles erreurs ? C'est vraiment mettre tout en bas la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus, tout ça. Ça n'a aucune valeur, en fait. C'est faux, ce que je dis là, on est bien d'accord. Mais c'est ce que ça signifie. Et surtout, ça va engendrer l'effort de cette personne-là. Je me souviens que cette dame, ben, elle faisait tous ses efforts pour gagner le salut. Finalement, ça se transforme en salut par les œuvres. Je dois faire un tas de choses, je dois être bon, je dois être gentil, je dois peut-être faire des trucs sociaux, enfin bref, un tas de choses pour obtenir mon salut. Mais Éphésiens nous rappelle que c'est par la grâce qu'on est sauvé, pas par les œuvres. Finalement, quelqu'un qui dit « je perds mon salut », ben, est en train de créer un salut par les œuvres et non par la grâce. Et forcément, il est malheureux comme tous ceux qui essaient d'agir dans ce sens-là, la religion, la philosophie, etc. Le Seigneur nous a sauvés par sa grâce et non par ce que moi, je peux faire. Puis la question que je vais poser, mais combien de péchés il faut faire pour perdre le salut ? Une grande question. Parce que peut-être je peux reconnaître là aujourd'hui que j'ai fait ce péché, mais j'en ai peut-être commis certains et je ne m'en suis pas rendu compte. Combien de péchés il faudrait faire pour perdre son salut ? Elle ne pouvait pas me répondre. En fait, tu serais tout le temps perdu. C'est ça le problème, parce qu'il y a un tas de péchés qu'on ne reconnaît pas nous-mêmes. Évidemment, tout ça, je ne suis pas d'accord. Mais j'essaie de m'amuser théologiquement pour prouver que, finalement, si on devait perdre le salut, il y a un tas de choses qui viendraient, qui s'en iraient, qui viendraient. On recrucifie Jésus plusieurs fois, en fait. Et ça, évidemment, ce n'est pas biblique. Alors, pourquoi ces personnes, peut-être, doutent de leur salut ? Alors, c'est possible qu'elles ne sont pas réellement sauvées. On se souvient de la parabole du semeur. Quatre personnes entendent la parole de Dieu. « Ouais, Jésus est vivant, gna gna gna. » On commence à avancer, le diable enlève la semence, puis après il y a les soucis de la vie, les difficultés. Et puis finalement, sur ces quatre personnes qui ont réagi à l'évangile, il n'y a qu'une seule personne qui s'est vraiment convertie et qui est née de nouveau. On peut avoir l'apparence de la conversion. Attention, il faut vérifier si tout ça est réel. Et ça se voit évidemment dans le temps. Il y a des gens qui ont un salut sentimentaliste. Et c'est pour ça que je fais un peu de doctrine de temps en temps. Parce qu'on ne s'appuie pas sur nos sentiments. Nos sentiments sont complètement différents, déjà qu'on soit un homme, une femme, etc. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. Ils sont là, on est d'accord. Mais mon salut, je vais l'appuyer, ou je vais chercher une conviction dans la parole de Dieu, pas sur ce que je ressens, moi, intérieurement. Soit peut-être ces personnes cherchent un salut par les œuvres. Beaucoup de gens se disent « je suis sauvé » et ils sont sauvés parce qu'ils font un tas de choses, parce qu'ils sont gentils. Alors c'est bien d'être bon, c'est bien d'aider son prochain, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, c'est pas ça qui me sauve. Parce que ça, c'est basé sur mon effort propre. Jésus ne veut pas nos efforts, il veut qu'on accepte son sacrifice. Uniquement son sacrifice. C'est un cadeau qu'il nous offre. Il ne veut pas qu'on fasse quoi que ce soit. Et de toute façon, on ne peut rien faire. Vous croyez que tout le bien que vous pouvez faire va effacer votre péché ? Non. Il n'y a pas de balance avec Dieu. Il n'y a aucune balance. C'est impossible. Mais il veut simplement qu'on arrête nos efforts. Alors, continuons à aimer le prochain, on est bien d'accord. Mais qu'on s'arrête de se croire qu'à un moment, c'est mes efforts qui vont me sauver. Non. Il veut simplement qu'on saisisse le cadeau qu'il nous a donné. C'est une grâce qu'il nous a offerte. Là, j'ai une belle petite histoire. Un soir, pendant que maman préparait le dîner, son petit garçon arrive dans la cuisine et lui présente un morceau de papier. Maman s'essuie les mains sur son tablier et commence à lire. Elle lit donc « Pour avoir tondu le gazon, 5 euros ». C'est l'enfant qui parle. Hein. « Pour le nettoyage de ma chambre, 5 euros ». « Pour avoir fait des emplettes pour toi, pour maman, hein, 0,50 euros ». « Pour avoir gardé mon petit frère pendant que tu étais au magasin, 0,25 euros ». Il est dur, hein. Pour avoir obtenu un bon bulletin, 5 euros. Essayez de négocier ça avec vos gens. Pour avoir sorti les déchets, 1 euro. Pour le nettoyage et raclage de la cour, 2 euros. Maman, au total, tu me dois 14,75 euros. La mère le regarda droit dans les yeux. On pouvait voir dans ses yeux brillants défiler une foule de souvenirs. Et la maman alors prit la plume, tourna la feuille et se mit à écrire au verso. Pour t'avoir porté 9 mois, c'est gratuit. Pour toutes les nuits passées auprès de toi à prier et à te soigner, c'est gratuit. Pour tout le temps et toutes les larmes dépensées pour toi depuis ta naissance, c'est gratuit. Pour tous les conseils, les connaissances transmises, le prix de tes études, c'est toujours gratuit. Pour tes jouets, ta nourriture, tes vêtements et même pour t'essuyer les larmes et te moucher, c'est gratuit. Mon fils, si tu fais l'addition, tu constateras que le prix de mon amour pour toi est gratuit. Quand le fils a terminé de lire ce que maman avait écrit, deux grosses larmes coulaient sur ses petites joues, j'imagine. Le petit bonhomme regarda sa mère et lui dit « Maman, comme je t'aime ». C'est alors qu'il prit la plume et inscrivit sur sa facture en grosses lettres « Payé intégralement ». Je trouve ça tellement mignon et tellement réel. Hein. On vient vers Dieu en disant « Voilà, j'ai fait un tas de choses, Seigneur, Seigneur, regarde tout ce qu'on a fait ». Et en fait, c'est pas ça qui est la grâce. La grâce, elle est totalement gratuite et Dieu a tout fait au travers de son Fils Jésus-Christ pour offrir cette grâce. Et peut-être que certains pensent qu'on ne peut pas le saluer parce qu'ils comprennent certains passages un peu difficilement. Je vais aller vite, si vous avez des questions, venez me voir tout à l'heure, mais j'ai déjà entendu parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent « Ah, est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit ?» Il faut replacer un texte dans son contexte. Et dans le contexte, c'est des pharisiens qui sont en train de dire que Jésus fait les œuvres du diable. Ils sont en train de dire, en fait, que Jésus est le diable lui-même, quelque part. Et forcément, moi, en tant que pharisien, en regardant Jésus, je me dis, s'il fait les œuvres du diable, je n'en veux pas. Le problème, c'est que la Bible dit que c'est que par Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Donc, si je ne veux pas de Jésus-Christ, ben, je ne pourrai jamais être sauvé, tout simplement. Ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. En fait, seuls des non-croyants peuvent blasphémer contre le Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Puisqu'il a accepté Christ étant le Fils de Dieu et faisant les œuvres du Père, hein, pour résumer. Voilà. Puis, bon, vous avez peut-être lu dans 1 Jean 5, 16, hein, je vais mettre la polémique, mais il y a un péché qui semblerait mener à la mort. Il dit qu'un frère qui commet un péché qui peut ne pas mener à la mort, mais un péché qui peut aussi mener à la mort. Si on prend le temps un peu d'étudier, vous vous souvenez peut-être d'Ananias et Zaphira, ils avaient dit qu'ils avaient vendu un champ, mais ils avaient gardé une partie de l'argent pour eux. Mais ils avaient fait les fiers devant tout le monde en disant « Regardez comme nous on est généreux ». Seulement on ne se moque pas de Dieu et l'un après l'autre vont mourir. Et peut-être en cherchant un peu plus, il se pourrait que des fois ben, un chrétien ben, commette des choses qui aillent contre l'État et les condamne à mort. Ça peut arriver, on ne sait pas. Hein. Si, je sais pas, s'il y a la persécution, on peut faire peut-être des choses. Donc quand on parle de ce péché qui mène à la mort, ça serait plutôt une mort physique et non pas une mort spirituelle. D'accord ? Ce frère peut-être mourrait sous l'épée, mais ne meurt pas pour l'éternité. On est bien d'accord. Mais venez me voir hein, si vous voulez tout. Et puis une chose qu'il faut distinguer aussi, parce que peut-être on ne le fait pas, quand je suis non-croyant, je pratique le péché. Tranquillement, enfin je ne vais pas de mentir. Je n'aime pas tant de voler, si je peux, hein, les impôts. ils méritent pas tout ce que je leur donne. Enfin, il y en a beaucoup qui le font. Bref, c'est pratiquer le péché sans que ça me pose problème. Ou, de temps en temps, j'ai un petit problème de conscience. Mais ça, c'est un non-croyant. C'est comme ça que j'étais avant, quand je n'avais pas Jésus-Christ dans ma vie. Mais à partir du moment que je suis devenu chrétien, il y a transformation, et puis j'ai envie d'obéir à Dieu. Alors, il m'arrive encore de chuter de temps en temps. Et vous aussi, je crois. Alors, on n'est pas en train de pratiquer là le péché, parce que quand on chute, on est désespéré, on est triste. Comme on a vu, on attriste le Saint-Esprit. Et la première réaction, alors des fois on est dur, mais la première réaction, c'est de vouloir demander pardon au Seigneur. Le chrétien, même si cette position qu'on a vue est parfaite, mais il est encore pécheur, hélas. Il a été pardonné, mais il est encore pécheur, et de temps en temps, il lui arrivera encore de trébucher. Mais la Bible nous dit que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, à condition évidemment qu'on se repente. Donc, ne pas confondre nos chutes de chrétiens, parce que ça nous arrive et ça peut être même grave des fois, mais ce n'est pas une pratique du péché. Et j'ai toujours la possibilité de demander pardon au Seigneur. C'est extraordinaire. Alors, ne nous disons pas « Ah, comme j'ai la possibilité, je vais aller faire n'importe quoi, de toute façon, Dieu va pardonner. » Vous savez, demander pardon, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et moins on a à le faire, mieux ça vaut. Le Seigneur est notre avocat, comme dit ce passage. La grâce du salut ne peut en fait être retirée. On ne peut pas perdre le salut. C'est impossible. Ceux qui le croient soit ne sont pas sauvés, soit n'ont pas très bien compris ce que dit la Bible. Mais si je suis né de nouveau, je suis sauvé et nul ne peut me retirer ce salut. Ni moi, ni personne. Et ça, ça me réjouit. Moi. Et vous ? Un peu. Vous avez faim, hein ? C'est midi bientôt, je sais. Mais ça devrait nous réjouir. C'est une garantie que l'on a de la part du Seigneur. Alors c'est très juridique, c'est très... voilà, mais c'est vrai. C'est une conviction que l'on, doit avoir dans notre cœur. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, encore énormément de choses à dire, mais prenez le temps de lire la Bible et notez de temps en temps peut-être quelque chose qui mène à cette conviction de salut et de justifier. Et plus j'ai d'arguments, évidemment, plus j'ai de joie dans ma vie. Pour terminer, je relis Romains 8, 30, il est dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Pour moi, c'est un passage qui dit qu'à partir du moment que je suis né de nouveau, automatiquement, je suis sauvé pour l'éternité. Et il ne s'arrête pas entre la justification et la glorification. Et c'est là toute l'assurance de mon salut. Alors nous qui sommes sauvés, je pense que de temps en temps, il faut s'arrêter et contempler ce salut. C'est beau. C'est extraordinaire, la grâce de Dieu, non ? Et on la diminue tellement parce qu'on n'a pas de temps, etc. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Et tout ça, ça mène simplement à être reconnaissant et à glorifier Dieu. On ne sait jamais quoi dire au Seigneur dans nos prières. Merci pour le salut. Merci pour l'assurance du salut que je possède. Réjouissons-nous d'avoir ce salut. Et peut-être quelqu'un ici n'a pas encore ce salut et quelqu'un écrit « Ouvre ton parachute ». Vous allez comprendre pourquoi. Le bon sens le plus élémentaire veut qu'en cas de panne d'avion, les passagers sautent en parachute. Bon sens, hein. C'est vraiment la seule solution pour sauver sa vie. Encore faut-il ouvrir son parachute au plus vite. Que diriez-vous de quelqu'un qui raisonnerait ainsi ? Je suis encore à 5000 mètres du sol, j'ai largement le temps d'ouvrir mon parachute. Puis maintenant, je suis à 3000 mètres, il faudrait peut-être penser à l'ouvrir. Non, j'ai encore le temps. Jamais fait de parachute. Hein. 1000 mètres, 500 mètres, et puis le parachute n'est toujours pas ouvert. Finalement, le drame se produit. Hein. C'est de la faute de ce téméraire. Hein. Il avait tout en main, en fait, pour atterrir à temps. Et l'auteur continue en disant « Souvent, l'homme agit comme un tel parachutiste. On croit disposer de tout son temps, le temps de se mettre en règle avec Dieu. » Et il pose la question, est-ce qu'on raisonne comme cela aujourd'hui ? N'oublions pas que nous ne sommes pas maîtres du temps et que le futur ne nous appartient pas, même si l'espérance de vie du genre humain ne fait qu'augmenter aujourd'hui. Un jour, chaque cœur va s'arrêter de battre. Et nous voilà devant le trône de Dieu, face à face. Parachutiste ou non, qu'est-ce qu'on fait de Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'on fait de Jésus-Christ ? Est-ce qu'on a accepté son pardon ? L'avons-nous aimé ? Avons-nous aimé notre prochain ? Si le diable vous suggère de remettre votre décision à plus tard, parce que souvent c'est bien lui qui vous inspire, rappelez-vous que les mots de Dieu sont « aujourd'hui et maintenant ». C'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir au salut, pas demain, parce que tout à l'heure je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Alors ouvrez le parachute si c'est possible. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons ce matin contempler ta croix, contempler ce sacrifice que tu as accepté pour chacun d'entre nous, et aucun d'entre nous ne méritait cette grâce. Aucun d'entre nous ne méritait que tu meures sur cette croix. Mais pourtant, tu l'as fait même avant que nous te connaissions. Et tu nous as regardés, tu nous as aimés, et tu as démontré cet amour pour chacun d'entre nous. C'est combien le diable trompe les gens par les œuvres, par la religion, par un tas de choses, alors que toi, tu veux simplement que nous fixions nos yeux vers cette croix. Merci pour cet amour, et pour nous qui t'avons accepté, Seigneur, comme celui qui nous sauve, et parce qu'on est né de nouveau, nous voulons tout simplement te remercier aujourd'hui pour ce salut. Merci pour tous ces arguments que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour l'assurance de ce salut et que tu nous aides à prendre le temps de l'apprécier, de le contempler, pour nous donner plus de force dans notre marche chrétienne, pour nous donner de la joie et pourquoi pas pour l'annoncer à quiconque veut bien l'entendre. Merci Seigneur parce qu'une fois sauvés, nous avons aussi la joie et l'assurance d'être un jour dans ta présence, la rédemption, ce nouveau corps, Seigneur, et la gloire que nous ne méritions pas. Mais Seigneur, c'est là tout ton amour et c'est toutes tes promesses pour nous. Et merci pour l'éternité qui nous attend. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas ou qui ont des doutes dans leur vie et que tu leur apportes aujourd'hui une réelle conviction ou tout simplement qu'ils saisissent le beau cadeau de la grâce. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
J'aimerais qu'on chante le numéro 318.